Attila, roi des Huns, par Feng Bertrano. Vers la première moitié du 5e siècle, la partie de la Terre, qu'on nommait alors le monde, était divisée en deux grandes régions. D'une part, l'immense empire romain, qui s'étendait des rives de l'Euphrate aux côtes de l'Atlantique, bordé au sud par les déserts africains, au nord, approximativement, par le Rhin et le Danube. C'était la Roumanie, comprenant l'Asie mineure avec Byzance, la Grèce, l'Épire, au nord du Danube, les colonies trajanes de la Roumanie, l'Illyrie, l'Italie, les Gaules, l'Espagne et le nord de l'Afrique. La seconde région, plus vaste encore que la première, la Barbarie, s'étendait au nord de l'Empire romain. Là, en des contrées indéfinies, vaguaient ces peuplades innombrables, germains, slaves, tartares, qui étendaient leurs activités de chasseurs, de pasteurs et de pillards, jusque vers les plaines glacées des régions polaires, et par-delà l'Oural, dans l'infinie Sibérie. Sur cette vaste barbarie régna Attila, depuis l'année 442, où il assassina son frère Bléda, afin de jouir du pouvoir sans partage, jusqu'en 453, où il mourut dans des circonstances qui ne sont pas éclaircies. L'empire d'Attila, roi des Huns, dépassa encore en étendue celui des Césars de Rome et de Byzance. Son peuple, les Huns, était de race tartare, la race des Finnois aujourd'hui, des Hongrois et des Turcs. Sur la fin du IVe siècle, ces Huns passaient pour les plus barbares des barbares, épouvantes des barbares eux-mêmes. Amiens Marcellin, soldat vivant et écrivant sous la tente et qui les a bien connus, a laissé d'eux une vivante peinture. Il les montre, dépassant en férocité tout ce qu'on pouvait imaginer de sauvages, ravageant au fer brûlant les joues de leur fils nouveau-né pour empêcher la barbe d'y croître plus tard, leur écrasant le nez sous une compresse de bandelettes et leur pétrissant le crâne en forme de cône pointu. Aussi, avec leurs bras énormes en proportion des jambes et une tête d'une grosseur démesurée, les Huns se présentaient-ils sous une apparence monstrueuse. Un auteur romain les compare à des cariatides car ils marchaient le torse incliné, véritables bêtes à deux pattes, ce qui leur venait sans doute de leur existence presque tout entière à cheval, au point qu'ils ne marchaient plus qu'avec difficulté. Leurs vêtements se composaient généralement d'une tunique de lin et d'une casaque de peau de rat sauvage. Ils tiraient leurs moyens d'existence de la chasse aux renards et à l'ours, à travers leurs immenses forêts, du commerce des pelleteries et du pillage des caravanes. La chasse aux grands fauves était pour eux un exercice guerrier. Dans les combats, ils se précipitaient tumultueusement, sans souci de suivre un ordre ou une stratégie quelconque, en poussant des cris affreux. Leur premier élan, n'enfonçaient-ils pas les rangs de l'adversaire, ils se retiraient pour revenir à la charge avec la même impétuosité. Rien n'égalait l'adresse avec laquelle les Huns lançaient, à des distances prodigieuses, leurs dards armés d'os pointus, durs et perçants comme le fer. Ils parlaient un langage nourri de métaphores. Leur religion consistait en pratiques de magie et en histoires de sorcellerie, dont les chansons épiques des Finnois, réunies de nos jours sous le nom de Kalevala, conservent des traces véhémentes et splendides. Attila, roi des Huns, a été un être plus complexe et plus intéressant que le conquérant sauvage, impétueux, aveugle et brutal que l'imagination populaire a coutume de représenter. Il a eu, avec notre Clovis, les rapports les plus étroits, mais avec une grandeur et une puissance qui dépassent de beaucoup le fondateur en Gaule de la monarchie des Francs. Comme Clovis, il commença par égorger nombre de ses parents, notamment son propre frère, pour se faire souverain sans conteste des peuples qui lui étaient soumis. Après quoi, comme Clovis encore, il eut à réaliser la partie la plus ardue de son œuvre, en réduisant les peuplades voisines de même race et de même caractère que celle à laquelle il commandait. Et quand il eut tout son monde bien en main, il tourna son activité contre les Slaves, les Germains et les Romains, et ce furent des victoires foudroyantes, les flots d'un océan de feu, de fer et de sang. Il étendit son empire depuis le cœur de la Sibérie jusqu'au bord du Danube et du Rhin. Les empereurs de Byzance lui payaient tribut comme des vassaux pour se garantir de ses exploits. Honoris, sœur de Valentinien, lui envoyait un anneau d'or en hommage de fiançailles, mais Attila dédaignait ses avances princières. Attila était court de taille, large de poitrine. Il avait l'air farouche, les yeux petits, très vifs, dans un mouvement perpétuel, le poil rare, le nez court et épaté, le teint noir, et qui accusait la race. Il portait la tête haute, rejetée en arrière, ce qui accentuait le caractère de sa démarche, fier et impérieux. C'était bien là, écrit l'historien Godjournandès, un homme marqué au coin de la destinée, un homme né pour épouvanter les peuples et ébranler la terre. À la moindre contrariété, l'expression de son visage se contractait, ses yeux semblaient lancer des éclairs. Les hommes les plus intrépides tremblaient aux éclats de sa colère. Il agissait toujours en grand, tendant à frapper l'imagination, parlait avec emphase, se répandait en terribles menaces, accumulait les ruines sur son passage en dédain des pillages fructueux. À la suite des combats, il laissait les champs couverts de milliers et de milliers de cadavres, sans sépulture, répandant leur puanteur, attirant les charognards, pour en donner l'effroyable spectacle aux vivants. Mais ses peuples admiraient la fermeté de ses directives, sa probité, son intégrité, son avenante simplicité dans ses vêtements et dans sa manière de vivre. Son habillement était toujours modeste, mais d'une extrême propreté. Son alimentation consistait en viande rôtie sans aucun assaisonnement. Tandis que ses hôtes étaient servis en vaisselle d'argent, lui-même ne voulait pour son usage que des plats et des coupes de bois. Il eut une quantité invraisemblable de femmes et en épousait incessamment de nouvelles. Le nombre de ses enfants se chiffre par centaines. Avec cela, généreux, bienveillant pour ceux qui l'approchaient, rempli de bonne grâce envers familiers et amis, sensible aux prières et parmi tous ses emportements, un homme de sentiment. Son premier ministre, son homme de confiance, était un grec, Onégèse, car ce grand conquérant était plus diplomate que guerrier et, pour surprenant qu'il paraisse, préférait les négociations pacifiques aux combats, non moins habile à y triompher. L'historien Priscus, qui avait été député vers Attila par Théodose le Jeune, décrit son camp célèbre en Pannonie, en Hongrie, proche de l'emplacement actuel de Budapest. Le palais s'élevait sur une hauteur d'où il dominait la ville. De hautes tours attiraient le regard. Il était entouré d'un pourpris, à l'intérieur duquel étaient construites les demeures de Derka, l'épouse favorite, du ministre Onégèse et de plusieurs fils du roi. Le tout était bâti en bois, avec un soin infini, les planches poulies avec tant d'adresse que la paroi en semblait tout entière d'une seule pièce. La maison de la reine, plus élégante, d'un dessin plus léger, était ornée de sculptures. Des thermes, à l'imitation des Romains, étaient construits en pierre. Priscus put assister à l'entrée d'Attila dans sa capitale. Les femmes de la ville s'avancèrent processionnellement à sa rencontre. Elles se rangèrent sur deux longues files, tendant, d'un rang à celui d'en face, en manière de dais, des voiles blancs, qui formèrent par-dessus les têtes une voûte claire sous laquelle s'avança une théorie de jeunes filles chantant des vers à la gloire du conquérant. Devant la maison de son ministre Onégèse, le conquérant s'arrêta. Des servantes en sortirent avec des plats chargés de viande et des coupes de vin. Quatre robustes gaillards soulevèrent une table d'argent jusqu'à la hauteur du cheval où Attila était monté et d'où il goûta des mets et du vin. C'était l'honneur le plus grand qu'un roi des Huns pouvait faire à l'un de ses sujets. En Pannonie, Priscus eut un entretien avec un Grec qui s'était fait un. Il le rapporte non sans surprise. Le personnage en question se trouvait beaucoup mieux sous la domination d'Attila que sous celle des Césars romains. « Ici, disait-il, la guerre nous alimente, tandis qu'elle épuise et tue ceux qui vivent sous le gouvernement romain. Encore les maux de la guerre ne sont-ils rien chez les Romains auprès de ceux qui accompagnent la paix, car c'est alors qu'éclatent et leur luxe, et la rigueur insupportable des impôts, et les exactions des agents du fisc, et l'oppression des hommes puissants. » C'est en 451 que les bandes uniques franchirent le Rhin, entre Worms et Bingen, sous la conduite d'Attila, pour envahir les Gaules. Le 6 avril, Metz est pris, incendié, les habitants sont massacrés. Les Parisiens voulaient fuir, se réfugier au fond des bois. Geneviève de Nanterre les apaisa. La menace sur Paris se dissipa. Le général romain Aësius accourut avec les troupes qu'il avait pu réunir. C'était un grand capitaine, lui-même d'origine unique, de la même race qu'Attila. Gallo-romains, francs, visigoths venaient se ranger sous ses enseignes. En lui, dit Journandès, résidait alors toute la fortune de l'Empire. Attila assiégeait Orléans, dont l'évêque Saint-Aignan dirigeait la défense. Le 4 juin 451, Aësius le contraignit à lever le siège. La bataille décisive, la célèbre bataille des Champs cataloniques, fut livrée entre Troyes et Chalon-sur-Marne. C'est un des plus grands événements de l'histoire. Attila n'avait pas seulement des Huns sous ses ordres, mais des Ostrogoths, des Gépides, des Alamans, qui le suivaient à titre de tributaire, et Aësius commandait à des Francs, menée par Mérové à des Visigoths, à des Burgondes, à des Saxons, qui lui obéissaient en qualité de soldats romains. Le sang fut répandu en si grande abondance, note Jornandès, que le calme ruisseau de la plaine en fut transformé en torrent. Les soldats que la soif y amenait en cette journée d'été buvaient du sang. Voyant que son armée fléchissait, Attila se retira dans son camp qu'il avait fait entourer, en manière de défense, des centaines de chariots que les armées barbares traînaient à leur suite. Jornandès le peint, parmi le carré de guerriers fidèles, semblable au lion qui, pressé par les chasseurs, se tient à l'entrée de sa caverne, dont il n'ose s'élancer, mais qui fait encore trembler la forêt de ses rugissements. 3 années après sa victoire, qui avait sauvé le monde romain, Aïssus fut poignardé de la propre main de l'empereur Valentinien, jaloux de sa gloire. Attila était mort l'année précédente, en 453. Il venait de contracter un nouveau mariage avec une jeune fille d'origine germaine. Ils disent, d'où semble être venue la forme Hildegonde. Elle était d'une rare beauté. Une tradition d'Outre-Rhin rapporte qu'Attila aurait jadis tué ses parents pour s'emparer de leurs biens. Les fêtes du mariage se déroulèrent avec le plus grand éclat. Le soir, Attila pénétra dans la chambre nuptiale, la tête chargée de vin et de sommeil, dit le chroniqueur. Le lendemain, on le trouva étendu sur son lit, baigné dans son sang. La belle Ildis était assise auprès de lui, la tête entre les mains, sous son long voile. Elle versait des larmes abondantes. Ildis, nouvelle Judith, a-t-elle frappé d'un glaive le conquérant endormi? La version répandue par les officiers d'Attila paraît plus vraisemblable. Le fléau de Dieu aurait succombé à une congestion cérébrale suivie d'une hémorragie. Les poètes germains feront d'Attila une manière de héros national, bien qu'il ait été le plus féroce ennemi des Germains, leurs ancêtres. Guillaume II donnera son nom à l'un de ses fils, Eitel. La légende s'est efforcée de grandir le héros barbare, et dans les documents historiques contemporains, il paraît plus grand encore. Ainsi s'achève Attila, roi des Huns, par Feng Brentano.